dans Jacques 1, à partir du verset 5, passage qu'on connaît bien, mais qu'il est important de rappeler. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas, il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alors, c'est un passage qui nous gêne. Soyons francs, parce qu'on se dit, mais j'ai prié comme ça à de nombreuses reprises. On prie et on se dit, ouais, mais est-ce que Dieu peut vraiment répondre? Est-ce qu'il va vraiment bénir? Est-ce qu'il va vraiment exaucer? Et on prie quand même, mais même s'il y a toujours un espoir, une espérance, il y a quand même ce doute. Donc on prie et pourtant on doute. Et pourtant on ne devrait pas. Alors je vous propose d'essayer de voir un petit peu plus en profondeur ce qu'est ce doute, voir quatre personnes qui ont douté de façon très importante, Ancien et Nouveau Testament, et ensuite, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce doute? Alors, avant de dire quelles sont ces quatre personnes, on va aller dans Matthieu 21-21, où on a une autre facette du doute. Là, on est bien d'accord que si on doute, Dieu n'exauce pas. Matthieu 21-21. Jésus leur répondit, « Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, il vient de dessécher un figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Là aussi, on comprend bien que si on doute, c'est pas bien, mais si on ne doute pas, on déclenche une puissance absolument phénoménale. Donc la prière n'a pas pour but de modifier la généalogie, la géologie de la terre, mais une montagne, ça ne peut pas se jeter dans la mer. On a affaire à quelque chose c'est totalement impossible. Mais une montagne qui se jette dans la mer, on ne la voit plus et c'est complètement terminé. À cette époque-là, on n'allait pas sous l'eau. Donc là, la parole dit clairement qu'avec foi, sans doute, des choses qui paraissent absolument impossibles, et ça nous est arrivé à tous de prier comme ça. On a l'impression que c'est tellement impossible que là, on ne doute plus. Et Dieu nous exauce de façon, on a l'impression qu'on lui demande un verre d'eau, et puis on se retrouve avec la piscine entière. Quoi. Et pourquoi? Parce qu'on a demandé avec foi, dans sa volonté, sans douter. Alors, maintenant que on a vu il ne fallait pas douter, on va voir aussi quatre exemples de gens qui ont douté. Deux dans l'Ancien Testament, Ève et David, et deux dans le Nouveau Testament, Pierre et Thomas. Il y en aurait d'autres bien sûr, mais il me semble que ces quatre-là sont quand même significatifs. Alors, le premier exemple, Ève. Le doute arrive avant le péché. On va aller en Genèse 3. Vous allez voir ce que c'est que le doute. Le doute, c'est l'arme que Satan utilise pour nous piquer. Alors, c'est parfois de façon tellement subtile qu'on s'en rend à peine compte. Et c'était le cas pour Ève. Donc, Genèse 3, passage bien connu, bien sûr. Alors, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu m'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Là aussi, le doute commence par douter de la parole. Il ne contredit pas. Le doute, bien souvent, ce n'est pas quelque chose qui arrive ouvertement. C'est plutôt quelque chose d'insidieux. On se dit, ah oui, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Et c'est exactement ce que dit le serpent. Dieu a-t-il réellement dit? Sous-entendu, est-ce que tu en es sûr? Ensuite, a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Là aussi, le doute le doute remet en cause la parole et le doute ajoute un élément. Parce que Dieu n'a pas dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin, mais de manger tous les arbres du jardin sauf deux, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Là aussi, Dieu n'a pas dit de ne pas y toucher, de ne pas en manger. Donc là aussi, Ève doute, mais c'est extrêmement subtil. Pour répondre au doute, elle va chercher dans la parole, mais elle va en rajouter, au lieu de s'en tenir à la parole. Elle en rajoute, et elle va au-delà de ce qui est dit. Elle rajoute quelque chose. Et c'est à partir de là que le doute va prendre racine. Parce que Dieu veut que nous nous en tenions à sa parole, qu'on n'en retire pas, mais qu'on n'en ajoute pas non plus. Et ça, c'est très important. Et donc, on le verra donc un peu plus tard, pour s'en tenir à la parole, il faut bien sûr la connaître. Donc, le doute a dans ce cas-là des connaissances absolument désastreuses, et on va le voir par la suite. À partir du moment où le doute est rentré dans l'esprit d'Ève, une brèche a été ouverte, et c'est là que Satan va s'introduire dans son esprit. Alors le serpent dit à la femme, verset 4, « Vous ne mourrez point, mensonge. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Mensonge. Il commence par dire « Ah non, non, Dieu n'a pas dit ça. » Et ensuite, il remet en cause le doute, remet en cause l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous. C'est-à-dire que cette parole qui est si belle, est-ce qu'elle est vraiment pour nous? Est-ce que c'est si bon que ça? C'est ça le doute. Et c'est ça qui arrive à Ève. Ève cite mal la parole, elle ne s'appuie pas sur cette parole. Dans le doute, Satan vient, lui ment, elle le croit, et Satan rajoute un autre mensonge en disant « vos yeux s'ouvriront ». Et c'est à partir de là que le péché arrive. Donc, le doute est à la base de la chute. Avant le péché, avant la chute, il y a eu un doute. Doute de la parole de Dieu, doute de l'amour de Dieu, et doute du fait que Dieu veut notre bien. Et donc, ce doute d'Ève, c'est quelque part notre doute à tous, avant de passer par la conversion. On se dit, ah oui, mais est-ce que Dieu veut vraiment mon bien? Est-ce que Dieu existe? On s'est tous posé la question. Est-ce que Dieu ceci? Est-ce que Dieu cela? Sauf que Ève apporte la mauvaise réponse en chutant et en entrant dans son mari. Derrière, remarquez que Satan s'attaque toujours au maillon faible. On a tous un point faible. Donc, je vais prendre volontairement donc un problème que je n'ai pas. Je ne suis pas tenté par l'alcool, donc Satan ne va pas s'attaquer à moi par l'alcool. Mais comme beaucoup d'hommes, je suis extrêmement douillet. Et donc, dès que j'ai un petit truc, je m'imagine tout de suite. Et c'est ça que Satan utilise. Ah oui, mais est-ce que Dieu veut vraiment ton bien? Est-ce que ceci? Est-ce que... Ah oui, mais tu vas être malade, tu vas être ceci, tu vas être autre chose. Et donc, c'est mon point faible. Et le malin s'attaque toujours à notre point faible. Donc, il faut en avoir conscience et, contrairement à Ève, s'appuyer sur la parole et uniquement sur la parole. Ensuite, deuxième doute, David, dans le psaume 13. Alors, les psaumes sont parfois choquants. Tellement le psalmiste épanche ses doutes, on a l'impression même que parfois il fait des reproches à Dieu. Mais ça se termine toujours par une louange. C'est un psaume assez court et qui est extrêmement dense. Donc, psaume 13. Au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Donc, premier doute. Est-ce que Dieu pense à lui? Est-ce que Dieu l'a pas oublié? Donc, il se trouve dans la difficulté, en tout cas dans la détresse. Est-ce que Dieu ne l'a pas oublié? Et on s'est tous posé la question. Mais Dieu existe, mais vu ce qui m'arrive, mais il m'a oublié ou quoi? Donc, si on s'est posé la question, David s'est posé la même question. David, c'est grosso modo 1000 ans avant Jésus-Christ, donc ça fait 3000 ans. Hein. Donc ça fait 3000 ans, plus que ça, en tout cas au moins 3000 ans qu'on se pose la question. Donc, premier doute de David. Je vous rappelle qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Il se demande si Dieu ne l'a pas oublié. Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Deuxième doute. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Il pense que Dieu ne s'occupe plus de lui, que Dieu se cache, qu'il n'est plus là. On s'est aussi posé la question. On cherche Dieu et on ne le trouve pas. On cherche Dieu et on se demande s'il ne s'est pas caché quelque part. Troisième doute. Jusqu'à quand, verset 3, jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? On s'est tous posé la question en tant que chrétien aussi, mais en tant que chrétien, je ne devrais pas avoir ce genre de soucis, je ne devrais pas m'inquiéter, je ne devrais pas être triste comme ça. Et ça, c'est un doute. C'est un doute que David a eu aussi et qu'on a tous aussi. On se demande si Dieu réellement prend sur lui nos soucis, parce qu'il le fait. Mais on se demande s'il les prend. Peut-être parce qu'il ne les prend pas comme nous, on voudrait qu'il les prenne. Ça, c'est autre chose. On y viendra. Et donc, David s'est posé la même question, exactement pareil. Il épanche son cœur. Et surtout, il n'hésite pas, et ça, c'est très important, à tout dire à Dieu. Et ça, c'est la chose qu'il faut faire face aux doutes. Il faut dire ses doutes à Dieu. C'est la première personne à qui il faut s'adresser. Si on garde ses doutes pour soi, alors là, vous savez, c'est comme une poubelle qu'on ferme et qu'on laisse dans un coin. Aïe, 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 ça va prendre de l'odeur, ça va être affreux. Il faut tout jeter. Il faut tout jeter. Quand on a quelque chose qui est vraiment malodorant, il faut tout jeter à la poubelle et vite, vite, vite. D'accord ? C'est exactement pareil avec le doute. Et c'est ce que David fait. Quatrième doute. Jusqu'à quand ? Verset 3b. Hein. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Donc, on se sent attaqué. L'ennemi, c'est le péché aussi. Hein. Et donc, on se dit, mais je ne devrais pas avoir à lutter de cette façon. Je ne devrais pas. Ça, c'est le doute. Hein. Si vous vous dites, je ne devrais pas, c'est que quelque part, il y a plus ou moins un doute. Mais sachez que David a eu ce genre de doute avant. Donc, on verra la suite du psaume après, dans une deuxième partie. Mais là, c'est très important de voir que David épanche son cœur devant Dieu. Il n'hésite pas. Il lui dit tout. C'est parfois difficile de se confier à un frère ou à une sœur, à son épouse, parce qu'on a honte. D'accord ? Sauf que là, il n'est devant Dieu aucune honte, puisque de toute façon, avant même qu'on lui ait dit les doutes qu'on a ou qu'on n'a pas, de toute façon, il le sait. Donc c'est très important que rien ne le gêne, il est disponible tout le temps. Vous connaissez l'expression « avoir un ami donc de 3 heures du matin ». C'est quelqu'un qui vous aime suffisamment pour répondre au téléphone à 3 heures du matin. On en a tous, mais si quelqu'un m'appelle à 3 heures du matin, très très franchement, je vais regarder ma montre en bâillant, parce que je suis fatigué. Sauf que Dieu ne se fatigue pas, d'accord ? Qu'il soit 2h, 3h, 5h, minuit, il est toujours disponible pour le temps qu'il faut. Dans le doute, et c'est ce que fait David, il faut tout épancher devant lui. Remarquez que, on le verra donc un peu plus tard, une fois qu'il a épanché ses doutes, les doutes sont partis. Et ça termine par une superbe louange. Moi, j'ai confiance en ta bonté, verset 6. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. C'est le résultat de ces doutes qu'il a donnés au Seigneur. Remarquez qu'il ne dit pas « le Seigneur me fait ou me fera du bien », mais « le Seigneur m'a fait du bien ». Donc, il remercie pour une chose que le Seigneur a bien sûr faite, mais qu'il fera encore. Donc, il a conscience de ce que Dieu fait, et sa parole est au cœur, puisque c'est David, c'est l'homme qui réellement a Dieu dans son cœur, d'accord ? L'homme selon le cœur de Dieu. Et il épanche ses doutes, ça c'est très important. Ensuite, on va passer dans le Nouveau Testament. Pasteur Aldo a parlé donc de Pierre tout à l'heure, et donc on va parler donc de Pierre. Alors, d'abord, rapidement dans Matthieu 14, 31, passage très connu, hein. Donc, Pierre, c'est l'homme fougueux, et puis quand il se trouve dans la difficulté, il est dans le doute. 14:31, donc je vous rappelle que Jésus-Christ marche sur les eaux, Pierre le rejoint, et il se trouve, donc, à partir du verset 30, « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, Pierre, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Il doute, mais il appelle le Seigneur. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Donc, il s'agit d'un reproche très net. Il a douté, mais dans son doute, il s'est immédiatement confié au Seigneur. Donc, il fait justement ce qu'il faut faire. Quand on doute, on a tendance à s'auto-flageller en se disant « mais c'est pas bien, je doute, il faut pas ». Et donc là, on est bien centré sur soi-même, et si on est centré sur soi-même, on n'est pas centré sur Dieu. Pierre fait exactement le contraire. Il ne cherche pas à comprendre. Il est fougueux, mais dans tous les sens du terme. Quand il se confie en Dieu, il se confie totalement en Dieu. Mais là où je voulais vraiment appuyer du doigt, c'était le triple reniement. Le triple reniement, c'est l'exemple même du doute. Alors, je l'ai pris dans Marc, donc on aurait pu le prendre dans un des autres évangélistes. Mais il dit, même si je dois mourir avant, même si, il est tellement sûr de lui qu'il finit par dire n'importe quoi. Et même notre Seigneur lui rappelle, mais si, tu vas me renier trois fois, il dit, ah mais non, pas du tout, même si je dois mourir. Bon, et donc, ça veut dire que notre Seigneur nous connaît. Donc, cacher des choses à sa femme, ça devient, après 25 ans, ça devient très très compliqué. J'ai l'impression qu'elle n'a pas compris, puis en fait, elle a très bien compris. Mais, tous les hommes sont comme ça. Et donc, mais en tout cas, cacher des choses au Seigneur, ça n'est pas possible. Donc, soyons vrais devant lui. Alors, pourquoi est-ce que Pierre renie ? Alors, il renie parce qu'il manque de foi. Alors, on s'est tous posé la question, oui, mais il n'avait pas la résurrection. Et c'est vrai. L'Esprit Saint n'était pas encore descendu sur eux, et c'est vrai. Mais, rappelons que les évangiles, c'est une sélection des faits marquants de la vie de notre Seigneur. Si on prend le plus court, Marc, si on lit à haute voix, ça va prendre une heure et demie à tout casser. Pierre a passé 3 ans et demi avec lui. Il l'a vu. Il n'avait pas à croire aux miracles, il les a vus. Il a vu les résurrections, il a vu les purifications, il a vu les guérisons. Il a entendu tout un tas de paroles plusieurs fois et il a vu le Seigneur à l'œuvre. Donc, il ne devrait pas douter. Et pourtant, dès qu'il se trouve dans la difficulté, face à une chose qu'il ne comprend pas, il doute immédiatement. Alors, il s'appuie sur les circonstances et c'est ça le problème du doute. On s'appuie sur nos circonstances, sur nous-mêmes et pas sur Dieu. Marc 14:71. Vous allez voir jusqu'où va le doute. Il s'appuie sur ses circonstances. Marc 14, on trouve plus vite quand on est assis. 14:71, à partir du verset 70 peut-être. Ouais. Marc 14 à partir du verset 70. Alors, peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement tu es de ces gens-là, car tu es Galiléen. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Donc, il ne se contente pas de dire qu'il ne le connaît pas, mais il jure. Donc, s'il jure, donc il prend Dieu à témoin. Donc, vous vous rendez compte jusqu'où ça va, jusqu'où? Au départ, il doute, parce que c'est vrai que voir son Seigneur emporté par des soldats, qui ne fait rien pour se défendre, qui se laisse faire totalement, oui, il y a de quoi douter. Sauf que il aurait pu, je ne suis pas en train de dire de donner des conseils à Pierre, mais il aurait pu s'appuyer sur ce qu'il avait vu en disant oui, mais il a dit qu'il allait être crucifié. Il l'avait dit avant. Sauf que il ne voit pas tout ça, il va jusqu'à jurer qu'il ne le connaît pas. Donc, vous voyez que son doute l'amène très loin, il s'appuie sur lui-même. Pourquoi ? Parce que tout seul, parce qu'il est faible. Un chrétien seul est un chrétien faible. Donc, si vous restez seul face au doute, vous allez perdre. Si vous restez seul face au doute, vous allez perdre. N'oubliez pas que la nouvelle nature est forte en Dieu. Prenez un arbre, en pleine canicule, les branches, elles vont tenir. Vous coupez une branche, vous la posez à côté, le soir, c'est tout desséché. Et une simple petite branche, à partir du moment où elle est en contact avec le tronc, alors là, la canicule n'aura pas de problème. Et donc, c'est cette nouvelle nature qui est forte. Ah oui, la nouvelle nature est forte, mais elle est forte en Dieu, et certainement pas par elle-même. Et donc, c'est cette espèce de combat qu'on a à livrer entre l'ancienne nature et la nouvelle nature. Mais la nouvelle nature ne gagnera le combat que si elle reste ancrée sur le tronc qui est, bien sûr, notre Seigneur. Donc, si on est seul dans le doute, on va douter encore plus. Si on confie ses doutes au Seigneur, il va les prendre pour lui. Ensuite, difficile de parler du doute sans parler de Thomas, bien sûr. Alors, on va prendre dans l'évangile de Jean, bien sûr. Alors, donc, le passage était tellement connu que du coup, je n'ai pas noté. Alors, remarquez que Didyme, ça veut dire jumeau. Hein, Jean 20, 24, je vais trop vite. Jean 20, 24. Thomas, appelé Didyme, ça veut dire le jumeau. Hein. Mais le jumeau, ça veut dire que c'est la même personne, mais ce n'est pas vraiment la même personne. Donc, il y a deux facettes, une facette forte et une facette faible. Alors, Thomas, donc là, c'est notre Seigneur est ressuscité, il l'est. Hein. 20, 24. Jean, chapitre 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Il n'était pas avec eux, donc on peut... Bon, c'est peut-être moi qui interprète. Hein. Il n'était pas avec eux, donc il n'était pas avec les autres, il ne bénéficiait pas de la communion fraternelle. En tout cas, il était tout seul. Qu'est-ce qu'il faisait tout seul au lieu d'être avec ses frères ? D'accord, première chose. Les autres disciples, verset 25, lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » Remarquez, il veut vraiment aller loin, quoi. Il ne veut pas simplement voir. Il veut mettre son doigt, il veut toucher, il veut être sûr. Alors, il veut des preuves. Sauf que, on oublie que les preuves ne suffisent pas toujours. Il y a des gens qui voient et qui ne croient pas. Luc 24, 38. C'est un. On glisse très vite dessus. Et pourtant. Attendez, qu'est-ce que j'ai noté Non, attends. Pardon. C'est ça. C'est ça. Luc 24, 38. On peut prendre avec le verset, à partir du verset 36, 24, 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ?» Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Non, il le voit. Et pourtant, il ne croit pas. Mais encore plus marquant, c'est Matthieu 28, 17. Matthieu 28, 17. Matthieu 28, 17. C'est tout à fait à la fin. Matthieu 28, à partir du... Bon. Le verset 17. On peut prendre à partir donc du verset 16 pour bien voir le contexte. Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Verset 17. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Ça paraît énorme. Ils le voient, ils l'entendent, donc il va leur parler, et pourtant ils ont des doutes. Donc voir ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que c'est quand même, c'est notre Seigneur qui suscite la foi. D'accord ? Bon, on ne le cherchera pas, mais vous regardez en Philippiens 2:13, c'est Dieu qui suscite la foi. La foi repose sur Dieu et pas sur nous-mêmes. Donc, voir ne suffit pas toujours. Il y en a qui voient. Vous savez, les pharisiens, ils ont vu le miracle. Et pourtant, ils l'attribuent à l'ennemi au lieu de l'attribuer à Dieu. Donc, voir ne suffit pas. Il faut aussi enlever les écailles, mettre ses lunettes ou les enlever, je ne sais pas, pour justement céder devant Dieu. Remarquez, ça on l'oublie souvent. Comment ça se termine cette histoire avec... On va retourner dans Jean. Comment ça se termine cette histoire avec Thomas ? On voit Thomas comme celui qui doute, alors que Thomas est le premier à reconnaître dans le ressuscité son Seigneur et son Dieu. C'est le premier. Donc je reprends après, à partir du verset 26. Donc Jean 20, verset 26. D'accord ? Donc Thomas, il a dit « Ah non, non ! Moi je ne croirais pas, je veux mettre mon doigt, je veux voir, je veux le toucher, sinon je ne croirais pas. » 8 jours après, donc, notre Seigneur nous fait parfois un petit peu mariner, d'accord ? Il ne répond pas forcément tout de suite. 8 jours, quand on doute, c'est parfois très très long. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas, pardon, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Donc, remarquez que Thomas, il ne met pas son doigt, il ne le touche pas. Thomas a compris, et quand il a compris, il se met à ses pieds. Bon, on peut supposer qu'il le fait. Mon Seigneur et mon Dieu. Il reconnaît dans le ressuscité son Seigneur et son Dieu. Et ça, c'est très, très, très fort. Donc, au lieu de s'arrêter au doute de Thomas, il faut pas s'arrêter au doute de Thomas. Vous savez, dès qu'on doute de quelque chose, on dit, moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Sauf que Thomas, c'est le premier à reconnaître, à faire une déclaration de foi au ressuscité. Les autres le feront après, mais c'est le premier. Donc, celui qui doute, va au-delà de ses doutes et voit dans le ressuscité son Seigneur et son Dieu. Alors maintenant on va voir, maintenant qu'on a vu ce que c'était que le doute, qu'est-ce qu'on en fait de ce doute ? Alors d'abord, on va rappeler un passage bien connu dans Actes 2:42 qu'il faut connaître absolument par cœur. Là, les quatre piliers, on peut dire les quatre pieds de la on n'était pas très loin dans l'évangile de Jean. Donc, il faut bien comprendre la vie chrétienne comme un socle à quatre pieds. Et ces quatre pieds, acte 2:42, doivent tous être équilibrés. Si on a une chaise avec un pied plus court que l'autre, on n'est pas bien. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, ça ne veut pas dire que les prières ne sont pas plus importantes que l'enseignement des apôtres. La communion fraternelle, aucune chose n'est plus importante. C'est comme si je vous disais, mais sur la chaise qui est là, est-ce qu'il y a un pied qui est plus important que les autres ? Ben non, il y a quatre pieds, il faut que ces quatre pieds soient équilibrés. Donc, si on passe son temps à prier, mais qu'on bénéficie pas de l'enseignement de l'Église, il manque quelque chose. Alors, il y a certains chrétiens persécutés qui n'ont pas cette chance, qui ne peuvent pas être enseignés comme ils le devraient, mais là, c'est un cas très particulier et Dieu y répond de façon très particulière. Mais là, je me place dans notre cas à nous. On bénéficie dans cette église d'un enseignement très solide et quand même très fourni, très souvent. Fraction du pain, on prie, mais on oublie trop souvent la communion fraternelle. C'est très important de savoir qu'à plusieurs, on est beaucoup plus fort. Et d'ailleurs, au début du ministère de notre Seigneur, il n'envoie pas les disciples un par un, mais deux par deux. Parce que si on a un qui a une défaillance, on est toujours beaucoup plus fort à deux. C'est entre parenthèses, c'est ce que font les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, donc ils y vont par deux. D'accord ? Bon, Nous, non, malheureusement. Et donc, c'est très important de respecter cette communion fraternelle. Dieu nous donne cette possibilité. La communion fraternelle, c'est pas simplement s'embrasser à la fin du culte, oui, comment ça va. Non, la communion fraternelle, ça va au-delà. La communion fraternelle, c'est aussi se confier nos doutes. Et ça, c'est très important, puisque c'est rare qu'on ait les deux doutes en même temps. D'accord ? Donc, si on a un doute, l'autre frère ne l'aura pas, et à partir de là, il pourra, si Dieu veut, si Dieu lui en donne la force, il pourra nous soutenir. Bon, il me semble important qu'on ait un frère ou une sœur auquel on puisse se confier. Alors, si on est marié, c'est bien de se confier donc à son époux, à son épouse, mais il y a des choses qui sont parfois délicates à dire. Il me semble important qu'on ait un frère ou une sœur de référence. Je suis de la vieille école, donc je pense qu'un frère se confie à un frère, une sœur à une sœur. Bon. Sinon, ça peut créer certaines ambiguïtés, qu'on le veuille ou non. Donc, c'est à mon avis préférable. Donc, ne négligeons pas la communion fraternelle. Il y a toujours un frère qui aura une parole d'encouragement. Ça nous est arrivé aussi, c'est d'encourager. Peut-être qu'on a des doutes pour pouvoir aller au-delà et aller aider un frère qui en a. Ça, c'est très très important. Donc, ne négligeons pas ça. Ensuite, exemple de Marie dans Luc 2,19. Marie est un exemple pour ceux qui doutent. Ouais. Oui. Luc 2,19. Alors, pourquoi j'ai mis 19 ? Oui. 19 et 51. Alors, Marie, est-ce que Marie comprenait tout ? L'ange lui arrive et lui dit « Tu vas mettre au monde un fils, c'est avec le sauveur de l'humanité. » Est-ce qu'elle comprenait vraiment tout ? C'était une toute jeune fille qui devait avoir peut-être 17 ou 18 ans. Est-ce qu'elle comprenait tout ? En tout cas, Luc 2,19, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Un peu plus loin, au verset 51. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Pourquoi est-ce qu'elle garde toutes ces choses dans son cœur ? Parce qu'elle accepte de ne pas tout comprendre. Et au jour d'aujourd'hui, on veut tout comprendre. Et quand on ne comprend pas tout, on se met à douter. Acceptons de ne pas tout comprendre. Pourquoi est-ce qu'on lit la Bible ? C'est parce qu'on ne comprend pas tout. C'est parce qu'à chaque fois, Dieu nous dit quelque chose de différent. Georges Müller, donc un Allemand qui vivait donc en Angleterre, a dit qu'après avoir lu la Bible 200 fois, il trouvait dommage de ne pas pouvoir la lire encore plus. Il lisait la Bible 4 fois par an, je crois, et donc pour lui, ce n'était pas assez. Donc, il faut accepter de ne pas tout comprendre. Et c'est parfois difficile parce que quand on a une question, on va sur Internet, on a la réponse tout de suite. Même parfois, j'avais fait une traduction donc une fois où il y avait marqué Penn State. Bon, l'État de Pennsylvanie, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai mis sur Google. Oui, c'est parce qu'il y avait eu dans une université dans les années 60, je ne sais quel massacre. Voilà. Bon, si j'avais pas eu Google, j'aurais eu certaines difficultés. Mais on a pris cette habitude. On veut une question, on a la réponse tout de suite. C'est pas pour rien que dans la parole, notre temps c'est chronos et le temps de Dieu c'est kairos. Donc on a du mal à attendre Dieu et surtout on a du mal à accepter de ne pas tout comprendre tout de suite. Restons humbles, vous savez, nous ne sommes que des poussières sur une poussière dans l'univers. Un jour on comprendra, mais sachons quand on ne comprend pas, tout remettre à Dieu. C'est pas parce qu'on ne comprend pas que c'est pas vrai, d'accord ? Et surtout, c'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'on ne comprendra pas un jour. Un enfant ne comprend pas tout et ça ne le gêne pas. Nous, ça nous gêne. Ça ne devrait pas. Il faut savoir tout remettre à Dieu, tout garder dans son cœur, jusqu'au jour où on va tout comprendre. Ensuite, s'appuyer sur la parole. Psaume 42. Et on reviendra au psaume 13, bien sûr. Psaume 42. C'est un très très beau psaume quand vous êtes dans la difficulté. D'accord ? partir du verset 6. Alors, je vais le dire entièrement. Ça me semble important. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Le doute. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie, des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'abattu, ô mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il nous faut espérer en Dieu et en sa parole. Remarquez qu'il ne dit pas « il est un salut ». C'est « mon salut, mon Dieu, mon salut personnel, mon aide personnelle ». Je reprends verset 7. « Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzéar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent. En me disant sans cesse, où est ton Dieu? Deuxième fois qu'on lui pose la question. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Quand l'Esprit Saint répète les choses deux fois, en aussi peu de versets, hein, c'est le même verset deux fois sur 12, hein, puisqu'il y a 12 versets, c'est qu'il nous faut espérer en Dieu. Et ça, c'est très, 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 très important. Il est mon salut et mon Dieu. C'est le mien, c'est le vôtre aussi. Nous devons nous appuyer sur toutes ces promesses et pas sur nous. Vous savez, je m'étais fait la réflexion une fois, il y avait un ancien nageur olympique qui était mort vers 65 ans, et je ne sais quelle maladie, et ils avaient remontré le nageur donc en train de nager. Donc on avait vu quelqu'un, les nageurs sont grands, développés, et je m'étais dit quand même, ça ne dure pas longtemps. Quelqu'un qui était en pleine forme, quelques années avant, en pleine possession de ses moyens, qui nageait à toute vitesse, qui glissait sur l'eau, eh ben oui, sauf que nous ne sommes pas grand-chose. Donc il faut avoir cette conscience de ne pas être grand-chose, mais en même temps avoir la conscience que Dieu nous donne cette parole, et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Sur nous, un jour ou l'autre, on ne sera plus là. D'accord ? Nous serons avec lui. Donc, et ayons à l'esprit cette idée, c'est sur sa parole qu'on s'appuie. Ensuite, et j'ai bientôt terminé, hein, mais vous comprenez que le sujet me tient à cœur. Psaume 119, 105. Pour bien montrer que dans le doute, il faut s'appuyer. D'ailleurs, je pense qu'il y en a qui le connaissent par cœur. Non? 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 Je me disais quand même. 119, 105. 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors, remarquez, pourquoi est-ce qu'on a besoin de lumière? Parce qu'on n'y voit pas. Dehors, là, on n'a pas besoin de lumière. Il fait grand jour. En principe, il devrait même y avoir du soleil. Donc, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'une lampe à ses pieds? C'est parce qu'il n'y voit pas. Une lampe à ses pieds, parce qu'il a besoin de savoir où il met les pieds dans sa marche. Sans cette parole, il va trébucher. Donc, contre le doute, c'est la parole. Ensuite, une lumière sur mon sentier. La parole nous éclaire aussi de loin. C'est-à-dire, nous voyons où nous allons. Mais s'il parle d'une parole, d'une lampe et d'une lumière, c'est qu'il vit dans un monde de ténèbres. Nous vivons dans un monde de ténèbres. Nous vivons dans un monde de ténèbres. Donc, sans la parole, on est tous aveugles. Donc, si on veut être éclairé, c'est la parole, la parole, la parole. Effectivement, il y a des passages difficiles. Mais croyez-moi, quand on est passé sur un passage difficile et qu'à un moment, on se trouve « Ah, c'était aussi simple que ça », croyez-moi, à ce moment-là, on se trouve vraiment stupide d'avoir douté. Donc, relisons cette parole. N'oublions pas les prophéties. La Bible est bourrée à craquer de prophéties, il y a des passages prophétiques dans quasiment tous les psaumes. Et donc, ayons confiance en Dieu. Et enfin, je terminerai sur une parole dans Marc 9, 24. Marc 9, 24. Marc 9, 24. Il s'agit, juste avant une guérison, c'est un papa qui demande à notre Seigneur de guérir son fils. D'accord ? Donc, à partir du verset 22 peut-être, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Verset 23, Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Verset 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Certaines versions, viens au secours de mon manque de foi. Donc, la prière, c'est l'arme fatale face au doute. Quand vous doutez, priez. Quand vous avez un souci, priez. On est tous passés par là, on a une dure journée, on est fatigué, on se dit non. La parole, ce n'est pas pour ce soir. Ouvrez la Bible, lisez un psaume, et c'est à ce moment-là que Dieu va vous parler de façon plus particulière, plus significative. On manque tous de foi à un moment ou à un autre, mais demandons-la à Dieu, exactement comme cet homme. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et c'est ça l'arme fatale face au doute. Si on prie, c'est qu'on pense que Dieu nous écoute. Si on prie, c'est qu'on pense que ça vaut la peine. Si on prie, c'est parce qu'on pense qu'on va être exaucé. Si on prie, c'est parce qu'on a foi en Dieu. Donc, ne restons pas sur nos petites foies en se disant « Ah oui, mais je doute, ah oui, mais ceci, mais cela. » Mais autre chose, prions avec ferveur, prions en étant persuadés que Dieu nous répond en son temps. Et vous verrez que petit à petit, le doute va diminuer de façon très importante. Je vous invite à terminer par la prière. Seigneur mon Dieu, j'aimerais que tu me pardonnes, tu nous pardonnes quand des doutes traversent notre esprit et quand nous restons arrêtés dessus. Lorsque sur ces doutes, on se dit « Ah oui, mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que la parole est vérité ? Est-ce que cette parole que j'ai entendue dans le monde ou que j'ai lue sur Internet qui met en cause ?» Non. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à nous confier dans ta parole avec humilité, mais avec joie aussi, parce que tu es le grand Dieu, lent à la colère, plein d'amour, d'une immense bonté. Tu nous as donné son Fils, qui a versé son sang, qui est mort, ressuscité, et qui est avec nous pour toujours. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à ne jamais oublier ça, et surtout, à toujours nous confier en toi, par la prière et la lecture de la parole. Nous te confions tout ça, je te confie tous mes frères et sœurs qui ont des doutes, comme moi, dans le nom béni de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. On